Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Marie-Noël, Bernard et Dominique, bonjour.
Bonjour
Christophe Maury.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'événement cinématographique de ce début d'été, sinon peut-être de l'été, oui. C'est quand même Le Comte de Monte Cristo?
Oui. Oui, c'est une évidence, même s'il faut toujours se méfier des évidences.
C'est un film grand français. Film et un gros film.
Bon, alors nous allons consacrer toute cette émission au Comte de Monte Cristo. Vous savez que c'était un fait divers qui s'est déroulé en 1807 et qui a été relaté par l'archiviste de la police de Paris. Le magazine Géo-Histoire a d'ailleurs consacré un papier sur cet invraisemblable épisode qui a donné naissance à l'un des plus grands romans, Le Comte de Monte Cristo. Il s'appelait François Picot, c'était un cordonnier originaire de Nîmes qui s'est installé à Paris afin de tenter sa chance. Et puis, il fait la rencontre de Marguerite Vigouroux, une jeune femme de la haute société. François Picot demande Marguerite en mariage et cette dernière accepte. François fait part de son bonheur à plusieurs amis, dont le propriétaire d'un café, Mathieu Loupiot, également amoureux de Marguerite. Alors jaloux, ce dernier complote avec les trois autres amis et va voir la police pour leur dire que Picot est un agent à la solde des Anglais. Alors le cordonnier est emprisonné durant 7 ans avec un abbé milanais issu d'une famille riche. Avant de décéder en prison, l'Italien fait de Picot son légataire universel et à sa libération, François Picot, désormais riche, change d'identité, parvient à trouver qui l'a fait enfermer et se venge. À son retour à Paris, le cordonnier qui se fait désormais appeler Joseph Lucherne apprend que Marguerite l'a attendu durant 2 années avant de finalement accepter la demande en mariage de Mathieu Loupiot. Un nain, Picot élimine les traîtres et s'attaque ensuite à la famille du propriétaire du café. Finalement, il va mourir lui-même assassiné. Et c'est de ce fait divers que Alexandre Dumas et Auguste Maquet vont concocter le Comte de Monte Cristo, qui va paraître en feuilleton entre 1844 et 1846. Alors c'est un chef-d'œuvre. Il a été adapté au cinéma, enfin au cinéma et à tous les écrans et même à la télévision. Combien de fois?
Ben, la télévision, on freinait 2 fois.
Ouais.
Et au cinéma, bon, on dit 18 ou 22 fois.
Télévision, 3 fois.
Au moins.
Ouais. À vrai dire, beaucoup plus si on compte les adaptations internationales. Parce qu'il y en a eu beaucoup en Italie, en Espagne.
Le premier film était muet, il date de 1908.
Ouais.
Et alors là, donc, cette nouvelle interprétation avec Pierre Ninet. On écoute tout de suite la bande-annonce. Allez, ça va nous mettre dans l'ambiance.
Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser.
Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès.
Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres.
Je suis innocent ! J'ai rien fait, je suis innocent !
Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort.
Qui êtes-vous?
Je suis l'abbé Faria. Et moi, je te porte le plus grand trésor que la Terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor.
Mais que feras-tu de cette fortune? Feras-tu le bien ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine?
À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts.
Prêt à faire quoi?
À se venger.
Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo.
Albert.
Dominique
Bord. Oui, alors moi, c'est une nouvelle vision. Moi, j'en avais vu 3 autres françaises. Là, c'est vrai que c'est un grand film d'aventure et un grand mélodrame amoureux qui peut se résumer à un hymne à l'amour et à la haine, au fond. Ça, c'est un peu ce qu'a voulu les deux metteurs en scène. Mais l'ampleur de la mise en scène, les décors, les personnages balayent, il faut dire, par hors dimension les précédentes adaptations. Là, on est dans le grandiose. On est, si on veut une métaphore pâtissière, je dirais que là, on est dans un superbe pudding, alors que les autres étaient plutôt dans les tartes aux pommes. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est assez séduisant, et parce que le personnage principal, lui, reste ce qu'il est, c'est-à-dire un être en souffrance, un être d'abord banal. Edmond Dantès est un garçon banal qui va épouser Mercedes, et après 15 ans au château d'If et sa rencontre avec l'abbé Faria, il devient quelqu'un d'autre. C'est pas une double vie, c'est une vie dédoublée, Monte Cristo. Et c'est pas quelqu'un qui se venge, c'est quelqu'un qui va rendre la justice. C'est dit dans le film. Mais il la rend douloureusement parce qu'il est lui-même obsédé par cette injustice qu'il a envoyée au château d'If. Puisqu'il y a trois personnes qui sont coupables, pour des raisons très différentes d'ailleurs, de d'avoir comploté contre lui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnages de ce nouveau film échappent aux stéréotypes des autres personnages qu'on a pu avoir dans les autres films. Je prends le cas de Villefort, qui était toujours interprété par des acteurs au physique assez semblable.
Comme Robert Derrand.
Oui, mais avant, il y avait Aimé Clarion, il y a eu Jacques Castello et il y a eu Bernard Derrand.
Bernard Derrand, oui.
Qui avait un peu le même physique là, pas du tout, on est avec la fille qui a un physique totalement différent.
Fort sympathique, il a un physique sympathique.
Sympathique et plutôt...
Mais c'est là où on voit qu'il c'est vraiment un salopard.
Voilà, plutôt beau garçon, donc c'est pas du tout... C'est intéressant d'échapper aux stéréotypes.
Ouais.
Maintenant, Montego s'appelle tout de suite Morcerf, c'est son cousin. Bon, il y a beaucoup de changements par rapport au roman et aux autres adaptations. On a un petit peu esquivé Morel et Cadrousse, un petit peu beaucoup... Et puis la façon dont Edmond Dantès s'échappe, il est recueilli par un marin sur un bateau, là pas du tout. Il arrive, il nage beaucoup.
Il nage jusqu'au bout.
Il nage jusqu'au bout, c'est un grand nageur, et il n'a pas de combinaison. Et il arrive sur une île, et on le voit arriver dans la maison de son père. Bon, là, il y a beaucoup d'ellipses comme ça qui sont... Et puis, je peux ajouter tout de même qu'il y a une histoire d'amour qui se dédouble, puisque Aïdée... Mm. est amoureuse du fils de Morcerf. Alors ça, c'est assez nouveau.
Non, pas de... Oui, pardon.
Mm-hmm.
Oui, oui.
Mais ils sont amoureux l'un de
l'autre. Oui, mais en fait, il reprend ce qui est dans le livre. C'est la fille de Villefort
oui.
avec Maximilien Morel.
Oui.
Et en fait, ils opèrent
ils
comme ça.
Oui, ils
voilà,
décalé.
Ils l'ont décalé oui. vers oui, oui. le fils de Morcerf
oui, oui.
et Haïdé.
Voilà. Mais il y a un duel historique à la fin, tout de même, entre Montego, entre Morcerf et Edmond Dantès. Alors voilà, on retrouve des personnages, mais légèrement modifiés. C'est plus grand, c'est plus moderne. Et surtout, le côté, moi, ce qui m'a beaucoup de plu, c'est que le côté tourmenté du personnage est très
oui.
bien rendu par Pierre
oui.
Ninet. Parce que c'est pas un homme heureux, c'est un homme qui se venge, c'est un homme malheureux. Et ça, il l'incarne bien. C'est un homme blessé, et pendant tout le film... On voit cet homme blessé qui va accomplir sa vengeance en comptant 1, 2, 3.
Et qui doute.
Et qui
c'est
doute,
ça que j'ai beaucoup aimé.
Et qui doute de lui, qui doute de tout finalement. Ça, c'est très bien rendu. Et il fallait qu'avec ce rôle, je crois que Pierre Ninet a gagné un peu son bâton de maréchal.
Ah bah, carrément.
Ouais.
Marie-Noël, excuse-moi, puisqu'on parle de Pierre Ninet, ça ne vous a pas gêné qu'il soit tatoué?
Si, un peu, oui.
Au début, quand il arrive, il est tatoué sur chacune des épaules.
Oui, mais
et il a un grand tatouage
dans le
dos,
qui est un tatouage
mais
multicolore.
Est-ce que les marins, les marins n'avaient pas des tatouages
mais, enfin, c'est vraiment la
est-ce
façon
que
dont
les...
dire.
Faudrait... Oui, mais est-ce que les marins n'étaient pas... Est-ce que c'est pas une marque depuis très longtemps? Est-ce que Long John Silver et la bande
des... Non, mais ils avaient juste une encre sur l'épaule, ils n'avaient pas un tatouage si élaboré dans le dos.
Oui, oui.
Donc
oui.
est-ce que Pierre Ninet est vraiment tatoué ou est-ce que
oui,
c'est
je me suis posé la question aussi,
Alexandre
oui.
de la Patellière et Mathieu de la Porte qui ont voulu ça pour moderniser le personnage?
Oui,
je sais pas.
De toute façon, il n'y a pas un tel souci d'exactitude historique dans le film.
Moi, ce que j'ai trouvé prodigieux, je tiens à dire que je n'ai pas vu les 3 heures passées. Absolument pas. Mmh. Et qu'on a une narration extrêmement lente qui est magnifique. On a cette scène entre les deux amoureux, sans musique de fond, ce qui la rend encore plus théâtrale. On a la scène du dîner à Paris dans l'ancienne maison de Villefort, qui est mais prodigieuse de théâtralité. Où
ça,
là,
ça correspond au chapitre Les fantômes dans le conte de Monte Cristo.
Là, Ninet, mais emporte le morceau de façon absolument éblouissante. Les décors sont magnifiques. Le château de Monte Cristo, une construction numérique crédible, est décoré avec goût et élégance. Et on est dans la première fortune du monde. Donc on est chez Bernard Arnault. Hein. Il faut le voir. Et j'avoue qu'il n'y a pas de faute de goût à l'intérieur. C'est pas bling-bling, c'est pas vulgaire. Et le montage est tellement bien fait qu'on est surpris. Alors, on connaît l'histoire. On sait qu'Edmond Dantès s'évade du château d'If. Et pour autant, moi, j'étais stressé en disant « Oh, il ne va pas y arriver !» tellement le montage est prenant.
Le sac est cousu.
J'ai craint que le plan soit contrarié par le chef des surveillants quand il s'aperçoit que le père Feria a été remplacé par Edmond Dantès. Alors, le scénario, il fallait faire des choix, n'évoque pas l'épisode romain avec l'exécution et les brigands dans les catacombes, mais la cohérence dramaturgique est là, et encore une fois, la théâtralité s'impose majestueusement. Quand Dantès dit à Dieu, je vais faire ce que tu n'as pas su faire, se venger du mal et donner la justice, c'est très très poignant. Et puis c'est un homme à l'amour brisé, vous l'avez dit, qui n'a pas de récompense que la vengeance, sa colonne vertébrale, et qui finit seul sur la mer. La fracture intérieure ne sera jamais soulagée. Dans le roman de Dumas, le départ en bateau est christique par la mission achevée et l'amour avec cette jeune femme qui l'accompagne et qui le comprend. Aime-moi, Aïdé, ton amour me fera peut-être oublier ce qu'il faut que j'oublie. Et ça se termine par attendre et espérer, les deux mots de la fin. Mais j'ai été conquis, je voulais rester pour la deuxième séance. C'est vous dire. Mais je crois que je vais aller le revoir. Le début montre le bonheur, un bonheur absolument fou, mais on voit dans ce bonheur que le bonheur est en train de semer la jalousie, tac, 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 à droite, à gauche. Et on les voit partir dans l'innocence de ce bonheur.
Mais c'est un bonheur simple, alors que lui, il devient beaucoup plus intéressant après.
Et oui.
Parce qu'il est beaucoup plus cultivé, ce qu'on ne dit pas dans le film. Ah bah, il a appris beaucoup de choses avec la Befaria. Voilà.
Bon, mais je ne vous en dis pas plus, parce que...
Il est riche et cultivé, et il est intéressant.
Et la Befaria qui
lui dit... c'est plus banal, quoi.
Moi, je suis là pour parler, et toi, pour te taire. Lui, parce qu'il sait où est le trésor, et l'autre, parce qu'il sait qui l'a trahi. Marie-Noël.
Alors, je suis d'accord avec Dominique pour la... Pierre Ninet, voilà, c'est lui qu'il faut célébrer parce qu'il est sensationnel. Oui, vraiment. Dans toutes les situations, à tous les moments, il est crédible, il est là, il est inventif, on ne sait pas ce qui peut surgir de lui tellement il est imprévisible et il est formidable.
Quand vraiment. Tu fais l'anglais, il est formidable.
Oui, oui. Dans toutes les situations, il est sensationnel. Que ce soit qu'il faille être comme ça, très physique, comme presque à la Belmondo, dans des cascades ou des performances sportives, que lorsqu'il s'agit de montrer une prestance, une dissimulation, etc., il en joue admirablement. Il est formidable. Maintenant, Dominique disait c'est un grand film d'aventure et un grand mélodrame amoureux. Je suis d'accord pour le grand film d'aventure, moins pour le mélodrame amoureux, parce que je trouve que les sentiments, les émotions sont un peu à l'arrière-plan.
Anaïs Dumouty est formidable, non ?
Oui,
quand elle le voit, quand elle le revoit.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup.
Son visage exprime tout.
Non, il n'y a pas beaucoup d'émotions.
Ah ouais.
On est dans le spectaculaire, mais c'est formidable au cinéma. Ouais. Moi, c'est pas du tout un reproche. Mmh. C'est un constat.
D'accord.
Il y a pas, je trouve pas qu'il y ait la dimension d'émotion profonde, d'intériorité, de l'amour, du regret, tous ces sentiments, tout ce lyrisme intérieur qu'on peut trouver chez Dumas, qui n'y est pas là. Mais c'est un spectacle formidable. La mise en scène est vraiment d'une maestria. Elle utilise les moyens techniques contemporains avec vraiment beaucoup de brio, beaucoup de goût, je suis d'accord.
Beaucoup de goût.
Dans les décors, dans les cadrages qui font exister les choses, les paysages, les lieux. On a cité les scènes de dîner, mais la scène du tribunal est formidable aussi.
Incroyable. C'est une scène de prétoire, vraiment, mais...
Oui, mais alors il y a tout, la majesté des lieux, l'ordonnance, la hiérarchie des sociales, etc. Et puis cette catastrophe au milieu qui va bouleverser tout ça.
Et ce garçon qui a été formaté et éduqué par Monte Cristo pour la vengeance, qui est l'instrument de la vengeance.
Et puis en effet, le montage, comme l'a souligné Christophe, moi je suis d'accord, il y a souvent des ellipses excellentes, des surgissements, des coupures brusques, des choses inattendues qui en jettent plein la vue et on est lancé dans l'aventure.
Il y a du souffle,
Bon, il y a quelques ventres mous, j'ai trouvé, dans la narration, au milieu, par moment, parce qu'il embrouille un peu les choses dans les récits. Moi, j'ai trouvé que le personnage d'Haïdée n'était pas clair du tout.
Non, il n'a rien à voir avec Haïdée.
Mais non, parce qu'il a, c'est un personnage qui a été complètement retravaillé, recomposé. C'est pas du tout ce qui, l'histoire que raconte Dumas. Donc ça, le père... En revanche,
De Villefort
disparaît. Il y a ce personnage
Monsieur Noirtier.
Noirtier. À la place, il y a ce personnage d'Angèle. Bon, il y a des choses. Alors, on se prend parfois un peu les pattes dans le scénario, j'ai trouvé.
Mais c'est très cohérent. Pour celui qui n'a pas lu Monte Cristo, c'est
surtout
très
que le spectaculaire l'emporte et que vraiment, ça, c'est très réussi. Mais ça pourrait être plus approfondi parce qu'en effet. Ce qui reste de très fort, d'absolument inébranlable, c'est l'histoire. Et donc, même s'il y a quelques erreurs ou fautes ou lenteurs, cette histoire est tellement forte, puissante, indestructible, qu'on peut la décliner, la raconter de beaucoup de manières différentes. Et ce moment, moi, j'ai beaucoup aimé la scène de l'église où... Il se substitue très clairement et très consciemment à Dieu. Et quand il dit ce que vous avez cité, à partir de maintenant, c'est moi qui récompense et c'est moi qui punis, puisque vous n'avez pas su le faire, vous, Dieu, alors que c'est votre boulot. Et donc, il prend la place de Dieu défaillant, mais il ne connaît que la justice distributive et et rétributive. Il ne connaît pas, en effet, la miséricorde, la douceur du pardon.
Un moment, si Mercedes dit... Un moment, Mercedes lui dit...
Dans le film, non. On ne voit pas ça.
Dans le film, un moment, Mercedes, elle est en marge d'une fête avec lui, et elle lui dit, mais pour pardonner, est-ce que vous pourriez pardonner? Il dit, mais pour pardonner, il faut demander pardon. Et elle lui dit, je vous le demande. Et à ce moment-là, on attend sa réaction et pof, ils sont dérangés par les gens qui arrivent. C'est formidable.
Il pardonne au fils Morcerf. Il pourrait le tuer pendant le duel. Voilà,
absolument.
Ça, c'est ça, ouais. C'est la seule.
Alors la force, voilà, il pourrait le tuer. La force de vraiment incomparable, je trouve, de cette histoire, c'est que c'est une vengeance constamment différée. Mmh. Parce qu'il ne veut pas... Ce serait trop simple de les tuer.
Il le dit au début, on ne va pas les tuer.
On va les faire souffrir, arracher le cœur.
C'est machiavélique.
Il y a une phrase qui est terrible et qui fait comprendre l'enfer qu'il a vécu. Lorsque le prêtre, le père Feria, lui dit « on va creuser le tunnel », et lui dit, c'est formidable, alors on va creuser, mais ça va durer combien de temps ? Il dit « j'ai calculé, combien ? 12 ans ». Et là, on voit le visage de Ninet se décompose. 12 ans pour creuser. 12 ans. Et ça, ce moment-là, c'est ça qui va peser sur ses épaules pour toute la vengeance. Ne pas les tuer, mais les faire souffrir.
Faire souffrir à petit feu, oui. Et à propos, les scènes de prison sont formidables. Et je passe la parole à Bernard.
Parce que,
oui, moi, je suis d'accord totalement avec ce qu'ont dit mes camarades sur l'aspect spectaculaire. Parce que c'est vrai que c'est un très, très beau spectacle et spectacle très intense, avec une réalisation haute en couleurs, qui a beaucoup d'ambition et d'ampleur.
Et
c'est vrai, une interprétation alors qui est dominée largement par Pierre Ninet et par un des méchants, je trouve, qui est Patrick Mill, l'interprète de Danglars.
Absolument.
Je trouve qu'il est assez nettement en tête. Il avait commencé au cinéma avec Gérard Depardieu dans Mon père, ce héros, aux côtés de la toute petite Marie Gillin à l'époque. Et là, de voir ce qu'il est devenu, je trouve qu'il se démarque assez nettement du reste.
Les salauds.
Il est parfaitement juste et on sent une jubilation qui emporte beaucoup de choses. La reconstitution nourrie par ces décors, c'est vrai, de bon goût et des costumes coquets, bien ça emporte une vive adhésion. Et alors, au risque de récidiver, de surenchérir avec mes camarades, c'est vrai que je trouve que les deux scènes, les deux meilleures scènes, c'est la scène du dîner qui vient du chapitre Les fantômes dans la maison d'Auteuil chez Gérard de Villefort, où là on fait frémir en présence de la baronne d'Anglard, puisqu'on évoque un enfant mort. Et on voit d'ailleurs l'interprète de la baronne d'Anglard est assez remarquable également. Et la scène du procès, qui est certes
plus forte dans la version télévisuelle de Denis de la Patellière, mais le metteur en scène Alexandre de la Patellière ne m'en voudra pas puisque c'est son papa. Ou d'ailleurs dans la version de Denis de la Patellière, Villefort, joué magnifiquement par Jean-François Poron, dit « Je me tiens à la disposition de la justice ». Et là, ce n'est pas le cas. Il garde le silence, il quitte. Et ça a beaucoup moins de force. Néanmoins, cette scène en dramatisation emporte beaucoup de choses, emporte quand même tout sur son, sur son passage. Maintenant, je dirais, là où j'aurais quand même quelques réserves, je trouve que le film a un peu le syndrome de Valmont. C'est-à-dire du film de Milos Forman. Le Valmont, c'est un film formidable quand on le prend comme film. Quand on le prend comme adaptation des Liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos, eh bien, c'est plus faible. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu le Frères avant qui était très au-dessus. Et là, quand on le prend comme film, c'est un film d'aventure enlevé, ébouriffant, de bon goût, vous l'avez dit et redit, qui suscite une totale adhésion. Mais comme, comme adaptation du Comte de Monte-Cristo, on peut avoir quand même d'authentiques réserves. Les masques, ça fait beaucoup penser à Fantomas d'André Une Belle, que j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup penser à L'étrange Monsieur Duvalier avec Louis Vel et sa Sabine Azéma pour le petit écran, mais ici...
Ou Arsène Lupin.
Oui, alors oui, c'est vrai, avec Georges Descrières, vous avez raison, mais là, c'est peut-être un peu trop. Le scélérat Cadrousse qui devient son ami dans le film, alors que c'est l'un des quatre scélérats, et là, les quatre sont réduits.
Et on passe sur l'auberge de Perbeul.
Mais alors, il y a un épisode, la pluie de sang, qui est totalement évacuée, parce que la femme de Cadrousse, la Carconte, qui est très importante, est totalement évacuée. Il y a quand même des ralentis, beaucoup, qui sont lourds et vains. Et puis, il y a des dialogues qui sont quand même assez anachroniques. Prenez soin de vous, l'expression « faire la fête », et puis, excusez-moi hein, pour les auditeurs, « ta gueule » qui est dit deux fois. Je ne suis pas sûr qu'au 19e siècle, qu'on disait ce genre de choses. Je suis d'accord avec vous, Christophe, l'évacuation du carnaval de Rome, c'est assez regrettable, de même que l'empoisonnement de la famille Villefort, qui est une chose déterminante dans le roman, et qui verse le poison, et ça, c'est totalement laissé de côté. Dans le roman, ce sont quand même deux Catalans, Fernand de Morcerf, qui est Fernand Mondego et Mercedes. Là, les deux Catalans, c'est Anaïs de Moustier et Bastien Bouillon. Donc là, tout l'aspect méditerranéen passe à la trappe. Plus gênant encore, il y a un des personnages qui ne sait pas que c'est Monte Cristo qui se venge. Et ça, c'est quand même très ennuyeux, parce qu'il doit savoir pourquoi il se venge. Villefort, je suis navré, à aucun moment il ne saura que c'est Dantès qui se venge. Et là, il y a quelque chose qui manque dans le scénario. Il ne peut pas porter la vengeance si c'est pour ne pas dire « mais je suis Dantès ». D'ailleurs, même dans Glare, il y a une incertitude. Mais Villefort, il ne peut pas savoir que c'est lui. Et là, ça, c'est ennuyeux. Et puis, beaucoup de personnages. Héloïse de Villefort, la femme de Villefort, Franz d'Épinay, le journaliste Beauchamp, qui disparaît, je sais qu'il n'avait que 3 heures. La musique est quand même assez pompier, que l'on pense aussi à la très belle version de Denis de la Patellière, c'était une musique de Nino Rota, qui était d'une autre envergure. Et puis, il y a quelque chose qui est un peu démagogique. C'est un peu, tous les riches sont méchants. Mais attention, dans le roman, il y a un homme du peuple qui est un scélérat, qui est Cadrousse, et qui là devient gentil. Villefort, il n'est pas procureur royal au début du roman. Il est substitut du procureur du roi. Il n'y a que Danglars qui n'est pas ce banquier richissime qu'il va devenir, qui est, ça c'est respecté, qui est un marin. Mais sinon, et de même Mondego, n'est pas du tout le comte de Morcerf. Là, il est déjà, il appartient à une famille riche. Donc, les riches sont méchants. Ah, mais heureusement, et en plus racistes, hein, puisque Danglars dit à un moment donné, ah, moi, je me méfie toujours des étrangers. Oui, mais ça, c'est une invention qui n'est pas du tout liée à Dumas. Et puis, quand même, la bagarre aux allures de pugilat, de jeux vidéo, avec les ralentis, on a l'impression que le pacte des loups est passé par là. Ça, ce n'est peut-être pas tout à fait de bon goût. Je trouve que la vengeance va quand même un petit peu vite à la fin. Je dirais que pour, sans doute pour finir, c'est que s'éloigner du calvaire d'un innocent suppose qu'un vengeur nous précède. En d'autres termes, quitter l'enfer de Dantès requiert de suivre celui que le talion aiguille.
Le spectacle a voulu l'emporter sur la psychologie, c'est certain. Mais il est réussi. Voilà,
mais ce que j'ai bien aimé dans la psychologie, c'est qu'on sent la solitude et le désarroi de Dantès jusqu'au bout. Il termine seul en disant « vivre sans être aimé et sans aimer », je ne vois plus que l'horizontalité de l'océan. Et, c'est, oui. et je veux rester seul
voilà
sur l'océan.
Voilà ce que c'est que de vouloir prendre la place de Dieu.
Et voilà, et alors, attendre et espérer, mais il sait bien que maintenant, son destin d'homme... C'est cette solitude qui est terrible, et c'est très réussi.
Mais Michel Crouzet, qui était un grand spécialiste du 19e, disait que c'était un mort-vivant, oui. Dantès, oui. jusqu'à ce que sa vengeance...
Le générique est là.
Je vais dire encore un tout petit mot, puisque Monte-Cristo se passe, on le sait, au moment des 100 jours, ressorti la semaine prochaine du Napoléon d'Abel Gance. On le signale à nos auditeurs, parce que c'est une œuvre absolument magistrale. Elle a été restaurée, elle ressort
Merci.
Très bien restaurée.
Merci à tous les
à
trois.
Ne pas manquer.
Merci, Monsieur Coba, derrière la vitre pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Palpeuch, j'en oublie.
Merci à vous, Christophe Maury,
et oui.
pour cette saison passée en votre compagnie.
Eh bien oui, parce que la semaine prochaine, eh bien, nous serons avec Patrice Lecomte pour tout le mois de juillet, avant les belles rediffusions du mois d'août.
Et après Merci le à comte tout. De Monte Cristo, Patrice Lecomte, c'est tout à fait.
Voilà, merci, il n'y aura pas d'applaudissements. Merci Bernard, Dominique et Marie-Noël. Et en tout cas, on se retrouve tout à fait début septembre pour une autre folie du cinéma. Sachez que notre émission en septembre ne durera pas une demi-heure, mais elle durera une heure. Donc nous aurons le temps vraiment de décortiquer les films et puis d'apporter aussi d'autres regards sur d'autres films et sur d'autres stars du cinéma pour vous faire rêver, vous faire entrer dans les salles obscures et toujours admirer l'étoile. Ça vous va comme ça ? Mmh. Eh bien alors, bon été, je vous embrasse. Bon été.